Mon message de ce matin, c'est le premier d'une nouvelle série qu'on commence cet automne avec le lancement des programmes de l'année scolaire. On suit un peu ce même calendrier dans l'Église et le livre de l'Exode, un voyage à travers l'Exode. Et le message d'aujourd'hui, c'est comme une introduction au livre de l'Exode et je l'ai intitulé « Qui est semblable à toi ». Notre famille, on habitait dans Snowdon il y a très longtemps, quand nos filles étaient toutes petites, et on avait des voisins juifs, une autre famille avec des jeunes enfants, et c'était une famille juive. Et un soir, j'étais assis à côté, non pas de la maman, mais la sœur de la maman, sur les marches de l'entrée de notre immeuble, mais il y avait comme une cour avec du gazon à l'intérieur de ce complexe d'appartements. Et les enfants jouaient dans le gazon ensemble, et moi, avec ma tante, donc, nous parlions de cinéma, et je lui ai demandé « Quel est votre film préféré de tous les temps ?» Et elle me regarde avec conviction et les yeux brillants. Elle me dit avec passion, sans hésiter, « Ben, les 10 commandements! » Les 10 commandements. Oui, un vieux, vieux film qui a été fait en 1956, mais qui a eu énormément de succès, que moi, je regardais très souvent quand j'étais petit, qui résume l'histoire du livre de l'Exode. Et au milieu du film, il y a une scène vraiment très célèbre de la traversée de la mer Rouge, là où Moïse fait la partition de la mer miraculeusement par la puissance de Dieu et le peuple hébreu qui passe. Alors cette ma tante juive, qui n'était pas particulièrement pratiquante, mais pour elle, ce film, quand elle le regardait, ça faisait de quoi qui la nourrissait, qui l'encourageait peut-être dans son identité religieuse, et peut-être aussi que ça la rassurait. « Ah oui, je fais partie d'un peuple que Dieu aime et Dieu s'occupe de nous. » Et ça m'avait touché. Nous, dans notre famille, nous étions plutôt d'obédience chrétienne. On regardait le vieux film « Jésus de Nazareth ». Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, probablement que oui. Et c'était un peu la même chose. On le regardait chaque année dans le temps de la Semaine Sainte. Et moi aussi, j'étais ému. Ça me touchait pour des raisons autres que juste que c'était du très beau cinéma. Alors, on va regarder un petit extrait de ce très vieux film. C'est une autre période de cinématographie, vous allez voir, surtout si vous n'avez jamais vu ça, mais peut-être pour d'autres, ça va rappeler des souvenirs. Alors, je ne sais pas si on est capable, je laisse entre les mains de notre technicien Antoine, si on peut regarder les deux premières minutes, c'est la section au milieu de la mer Rouge. Alors, l'audio est en anglais parce que la version française que j'ai trouvée, la qualité du son n'était pas fameuse, mais le film existe en français aussi. Mais c'est surtout les images qui vont nous intéresser. On va laisser un peu de temps. La semaine dernière, les jeunes qui sont aussi dans le livre de l'Exode, les enfants, ont vu un extrait du musical Prince d'Égypte, qui lui, alors ça a été fait en film, mais en bande dessinée, et ça, c'est de la cinématographie plus contemporaine, alors c'est avec de la très, très belle musique aussi. Mais j'ai pensé pour les adultes, on va regarder le vieux film « Les 10 commandements », si on réussit à le trouver. Oui, prenez votre temps. Mais pas trop de temps, quand même. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, bien, ça touche un peu à cette question aussi de notre témoignage auprès des personnes juives. Et ça, c'était le fun, cette conversation-là, parce qu'on parlait d'un film que je connaissais, que j'aimais beaucoup. Et peut-être que je peux dire déjà que l'histoire de l'Exode qui est racontée dans le film, elle n'est pas seulement pour les Juifs. C'est vraiment une histoire qui est importante pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. C'est un peu de ça qu'on va parler tantôt. Mais c'est ça, avec cette dame-là, j'avais parlé de Jésus, le nouveau Moïse, mais ça fait longtemps et je ne me souviens pas comment elle avait réagi, mais bon, j'avais planté une semence mais voilà, comme je disais, on habite dans une ville où nous avons beaucoup de voisins, d'amis qui sont juifs et juives, et ce sont à beaucoup d'égards juste du monde ordinaire qui ont des enfants et qui ont des problèmes, qui ont des aspirations. Et si vous avez des voisins juifs ou peut-être il y a un commerçant dans votre centre d'achat, que vous savez est juif, eh bien, comme j'ai dit l'autre jour, priez pour cette personne. Priez pour cette personne. Plusieurs spécialistes chrétiens de la Bible vont dire que l'Exode, qui est le deuxième livre de la Bible, c'est le centre, c'est le cœur de l'Ancien Testament. Alors, dans le premier livre qu'on a vu ensemble il y a quelques années, qui s'appelle le livre de la... Très bien. On voit que, voilà, Dieu crée le monde, il crée les humains, et les humains se rebellent contre lui, les choses se dégradent sur la terre, à cause de cette rébellion. Et Dieu met en action un grand plan pour rétablir la relation brisée avec lui. Et Dieu choisit un homme, ça commence à Genèse chapitre 12, il s'appelle Abraham. Et avec cet homme, il va fonder un nouveau peuple qui va apprendre, réapprendre, si vous voulez, à vivre avec Dieu et réapprendre qui il est. C'est quand il passe la main rouge. Je reviens à la fin du livre de la Genèse. Alors, à la fin du livre de la Genèse, les 70 descendants d'Abraham, ils se retrouvent réfugiés, migrants en Égypte à cause d'une famine dans la terre promise, Canaan. Et on se demande comment est-ce que l'histoire va continuer. Ça finit en queue de poisson, mais c'est là que le livre de l'Exode poursuit l'histoire. Donc, on voit qu'il y a vraiment une suite. Et dans le livre de l'Exode, ça commence que c'est 430 ans après la fin de Genèse. Ça fait 430 ans que les Hébreux, les descendants d'Abraham, sont en Égypte. Ah, ben on est rendu. C'est en plein ça. Regardez ces 2 minutes de cinéma très, très, très célèbre. Alors, ça nous fait rire parce qu'on est habitué à des technologies, des techniques beaucoup plus avancées aujourd'hui. À l'époque, c'était très impressionnant comme effets spéciaux. Et ils ont gagné des Oscars, et c'est resté un film populaire très, très, très longtemps. On est dans le livre de l'Exode, et 400 ans se sont écoulés depuis que les Égyptiens, ou plutôt les Hébreux, sont en Égypte, Et les 400 ans, nous dit le premier chapitre, dont on va parler la semaine prochaine, les nouvelles sont mauvaises. Le peuple a été soumis à l'esclavage en Égypte. Dans sa pauvreté et dans sa souffrance, il a beaucoup grandi en nombre, et maintenant, les autorités égyptiennes les persécutent et ont même organisé une campagne d'infanticide, donc de tuer systématiquement les bébés qui naissaient. Beaucoup de souffrance et un sentiment fort et comme intégré maintenant dans la culture de ce peuple que Dieu les a abandonnés. Ce peuple qui, autrefois, avait été appelé à marcher avec Dieu, vit comme s'il n'existait plus. Et on le voit dans leur vie religieuse qui a dégénéré. Et on sent qu'ils ont adopté les superstitions, les idoles qui étaient adorées, utilisées, dans le contexte égyptien, mais il y a probablement aussi beaucoup d'entre eux qui ne croient plus à rien du tout. Et c'est à ce moment-là que Dieu décide de se révéler à nouveau à ce peuple désespéré. Dieu a décidé de venir les sauver et Dieu a décidé de les sortir d'Égypte. Pourquoi? Pour les ramener à la terre qu'il leur avait promise, la terre de Canaan. Il veut leur apprendre et leur réapprendre à vivre en relation avec lui. Et ça va les ramener dans la terre promise. Et mon message de ce matin, c'est surtout Moïse comme leader qui a sauvé Israël, qui l'a fait traverser la mer Rouge miraculeusement, qui les a protégés contre les Égyptiens. Bien, c'est ce même Dieu qui vient à nous, qui est venu à nous en Jésus-Christ. Et ce Dieu qui a donné un salut extraordinaire à Israël, bon, on essaye d'imaginer ce qui s'est passé à partir des mots qui sont écrits. Autant c'était grandiose, autant c'était temporaire, limité dans le temps. Ce que l'Évangile nous dit, c'est que ce que nous avons reçu en Jésus comme intervention de Dieu, c'est quelque chose de plus permanent, quelque chose de final, quelque chose d'éternel. Amen. Donc, quand on étudie le livre de l'Exode, cela nous ramène aussi à l'Évangile. Et l'Évangile nous dit, étudiez l'Exode, c'est le même Dieu, le Dieu qui a sauvé Israël. C'est notre Dieu aujourd'hui, c'est ton Dieu. Il y a deux grandes sections dans le livre où on peut apprendre sur ce Dieu. Premièrement, les 18 premiers chapitres, ça, c'est l'histoire du peuple en Égypte. Dieu se révèle par ses actions. Alors qu'il était invisible, on sentait qu'il était en retrait, peut-être caché, pendant 400 ans. On voit que c'est le moment, il décide de venir sauver son peuple. Dieu se révèle par ses actions. Et dans la deuxième partie, que nous regarderons aussi cet automne, les chapitres 19 à 40, c'est Dieu qui est avec le peuple au Sinaï, donc de l'autre côté de la mer Rouge, dans le désert et auprès de la montagne, Dieu révèle sa loi. Et sa loi, c'est aussi son cœur, c'est aussi qu'est-ce qu'il veut pour ta vie, pour ma vie. Comment il veut qu'on vive avec lui et les uns avec les autres. On va parler ce soir dans un des groupes maison de la question de l'obéissance. Alors, l'obéissance à Dieu, c'est une vertu du chrétien, c'est un appel de la chrétienne aussi. Et ça va avec la parole de Dieu. Recevoir la parole ou la loi de Dieu et comprendre que d'y obéir, c'est pour mon bien, c'est parce que Dieu m'aime. C'est pas facile pour nous, parce qu'on se dit, « Ah, Moi, je veux la liberté, je ne veux pas les règlements. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. La liberté que Dieu nous donne dans la relation avec lui nous amène à entrer dans sa loi. Donc, on va lire, je vois que le temps avance, on va lire un texte où Dieu se révèle, mais c'est à travers un cantique, à travers un moment de louange et de fête. Donc, vous avez vu la scène là, et de l'autre côté, parce que la mer va se refermer, et la cavalerie égyptienne va se faire engloutir. Alors, ça, c'est triste pour les Égyptiens, oui. Mais de l'autre côté, les Hébreux célèbrent leur sécurité retrouvée et leur avenir de liberté qui est devant eux. Ils ne savent pas les problèmes qui les attendent. Là, ils sont dans une période de louange et de fête. Et je vais lire quelques extraits du fameux cantique du peuple hébreu au chapitre 15. Alors, je commence au verset 1, puis je vais sauter au verset 11 après. Allons-y. Alors, Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et le cavalier dans la mer. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Tu as tendu ta main droite, la terre a englouti nos ennemis. Dans ta bonté, tu nous as conduits, tu as racheté ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers ta sainte demeure. Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron et de Moïse, en passant. Donc, Myriam prit à la main un tambourin et toutes les femmes sortirent à la suite avec des tambourins en dansant. Myriam répondait aux Israélites, « Chantez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. » Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Alors, j'aime imaginer cette scène, parce que la manière que c'est décrit, il y a de la fête, il y a de la danse, il y a de la joie, il y a de la spontanéité. On dirait que le chant, il est inventé à ce moment-là. C'est comme du rap un peu, là. C'est comme Moïse et Myriam, ils inventent des paroles, puis tout le monde embarque. Et puis, c'est une chanson à réponse. À un moment donné, les hommes chantent, les femmes répondent. Et même les femmes menées par Myriam sortent des tambourins. Alors, je parlais de ça avec Cheryl hier soir, elle me dit, c'est quand même intéressant. Ce sont des réfugiés qui partent avec le minimum pour survivre. Bien, ils amènent leurs instruments de musique. C'est quand même le fun. Et bien, pas juste Myriam, mais plusieurs femmes avaient des tambourins et elles se mettent à danser, à taper dans le tambourin puis à chanter. Et je suis sûr que les enfants se sont mis de la partie aussi. Le peuple fait-il leur sécurité? Leur avenir, comme j'ai dit, mais surtout la redécouverte de ce Dieu qu'ils avaient oublié, qu'ils pensaient les avaient oubliés et qui maintenant ont vraiment vu, waouh, il nous aime et il s'occupe de nous. Alors, le chapitre 11, qui est au milieu de ce cantique, on va regarder qu'est-ce qu'eux ont redécouvert sur Dieu. Ils vont nous enseigner par leur chant. Et je vais essayer d'aller pas trop lentement. Wow, oui, on a une belle matinée ensemble. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles. C'est toutes des choses qui sont vraies pour toi et pour moi. C'est le même Dieu que nous célébrons à une nouvelle époque dans son grand plan. Et il faut que ces réalités-là au sujet de ce Dieu soient dans notre cœur également. Alors, la première chose qui est proclamée ici dans ce chant, c'est que Dieu est unique parmi les dieux. Alors, aujourd'hui, on va dire, mais ben oui, il n'y a pas d'autre Dieu. En réalité, dans l'expérience humaine, il y a beaucoup de divinités. Il y a beaucoup de faux dieux. Des dieux qui sont, oui, inventés par l'imagination humaine, et d'autres que c'est des vraies puissances spirituelles. Par exemple, et c'est peut-être les cas les plus fréquents, des anges qui se sont rebellés contre leur Créateur, Dieu les a créés pour le servir, ils se sont rebellés et trouvent un moyen de convaincre des humains que je veux être votre divinité et je vais vous servir mieux que le Créateur, le vrai Dieu. La Bible dit que l'argent peut devenir la divinité de beaucoup de gens. Et ça, c'est le cas dans notre société. Et moi, je connais des gens aussi qui ont inventé un Dieu que j'appellerais le Dieu de la bonne chance, le Dieu du hasard. Et ils ont choisi ce Dieu comme leur Dieu. Ce sont des gens qui se précipitent pour acheter des billets de loterie, par exemple, ou qui vont au casino régulièrement et vont dépenser des grandes sommes d'argent parce qu'ils ont cette croyance, « Mon Dieu de la bonne chance, mon Dieu du hasard, et le temps va venir où il va, lui, il va venir me visiter, me bénir, et je vais devenir un multimillionnaire du jour au lendemain. » En réalité, on voit que la plupart de ces gens-là s'appauvrissent et même souvent vont se ruiner à écouter ce faux Dieu, à vivre dans cette fausse croyance. Ma prière pour eux, c'est que, comme les Hébreux, ils découvrent qu'il n'y a aucun Dieu excepté l'Éternel, le Dieu créateur, le Dieu qui a sauvé Israël, le Dieu de Jésus-Christ. C'est le seul Dieu, c'est le seul Dieu auquel tu es appelé à suivre, à marcher, à écouter, à obéir. Et ce Dieu-là va s'occuper de tes besoins. Si on parle de la question de l'argent et du travail, c'est lui qui va te fournir un travail. Ne le lâche pas si tu es dans une recherche de travail difficile. Dieu pourvoit du travail pour tous ses enfants qui en cherchent. Des fois, il faut être patient. Des fois, ce n'est pas facile. Une fois que tu as un travail, dis-toi, Dieu veut que tu apprennes à gérer tes finances de manière responsable. Tu n'as pas besoin d'acheter des billets de loterie. Dieu va pourvoir à tes besoins et il va t'aider à prendre des décisions sages et responsables avec ton argent. Deuxième chose, ah, c'est déjà à l'écran, ce Dieu a un nom, l'Éternel. Alors, l'Éternel, c'est la traduction en français de son nom hébreu, Yahweh, qu'on a aussi transcrit Yahvé. Et ça signifie « je suis ». Donc, il y a un chapitre, un épisode un peu plus loin, qu'on verra plus tard, où Dieu se révèle à Moïse et dit, « Mon nom, c'est je suis. Je suis celui qui est. » Et de la même manière, les Hébreux ont redécouvert que ce Dieu, c'est le Dieu qui est là, vraiment, pour toi, dans ta vie. Donc, Dieu veut que tu découvres, toi aussi, qu'il est présent, qu'il est à côté de toi, même en toi, et que tu en prennes conscience pour que toi, tu deviennes présent pour lui. Troisièmement, magnifique de sainteté. Le mot sainteté veut dire Dieu est mis à part, il est dans un monde à part, il est différent. Et on évoque sa sainteté souvent quand on parle du fait qu'il est en haut. Et on dit Dieu est dans des hauteurs inaccessibles. Et c'est vrai, mais il y a aussi cette idée de sa pureté, du fait qu'il est complètement bon. C'est tellement pur, tellement vrai, tellement différent de ce que nous, on connaît parce qu'on vit dans un monde de péché et nous sommes nous-mêmes pécheurs. C'est tellement différent que ça peut être dangereux pour toi et pour moi si jamais on entrait directement dans la présence de ce Dieu à cause de sa sainteté. C'est un peu comme de la radioactivité. Si moi, je rentre comme ça, sans protection, sans préparation, dans une génératrice nucléaire, et je vais comme mourir, OK? c'est la même chose pour toi. Et c'est ça que Dieu révèle à Moïse et aux autres. Il prépare son peuple pour entrer dans sa présence avec des protections de grâce. Hein, on va chanter des fois, avec Jésus-Christ en nous, on peut entrer dans sa présence, mais on est comme couvert d'une protection. Hein. Il y a ce chant qui dit, « Et couvert par ta justice, Jésus, j'entrerai dans le Saint-Lieu. » Alors, au départ, Moïse, qui n'était pas encore connaissait pas l'Éternel, Dieu se révèle à lui, lui dit son nom, approche-toi pas trop du buisson ardent, on va en parler. Dieu nous prépare. Dieu est un Dieu de pardon. Il pourvoit le pardon, il pourvoit la justice. Et pour qu'on puisse s'approcher de lui. Et dans la Nouvelle Alliance, il y a une source de pardon intarissable et une source de justice parfaite qui nous permet d'entrer dans sa présence et de rester. Et cette source, c'est la croix de Jésus. Nous y reviendrons. Dieu est aussi digne d'être loué, chante Myriam et ses consœurs et tous les autres. La louange, hein, on a commencé la célébration avec de la louange. Merci Myriam. Hey, tu as le même nom que la prophétesse. Oh, yes! Et c'est avec joie que tu nous menais. Et je pense que c'est important de parler de ça, cette explosion de joie dans la louange. Alors, ça vient de expérimenter le salut de Dieu. Donc, nous, on est ici. Parce qu'on a été sauvés par Dieu. On vient pour le louer ensemble. Et peut-être que pour d'autres, puis c'est normal parce qu'on est ici ouvert à tous, peut-être que pour toi, ça, c'est un peu nouveau. Tu vas me dire, mais je n'ai pas encore eu une rencontre avec Dieu. Et pour moi, ce n'est pas naturel de le louer. Louer veut dire le vanter, hein? Vanter Dieu. Alors, quand on est ensemble, on le célèbre, on le vante ensemble, mais quelqu'un qui est vraiment saisi par cette joie de connaître Dieu, il ou elle va le vanter durant la semaine, va peut-être en parler à un collègue de travail ou le rappeler à ses enfants, etc. Il ou elle va peut-être se mettre à chanter dans l'autobus, pourquoi pas, ou peut-être n'importe où. Donc, on passe de, ben oui, comme je suis obligé d'aller à l'église, je vais y aller, puis comme tout le monde chante, je vais chanter avec eux parce qu'il faut que je le fasse. Il faut aller plus loin que ça. Il faut que ta relation avec Dieu t'amène à être une personne qui veut l'adorer tout le temps. Et ça, c'est un bon signe. Si cette semaine, tu dis, hey, je me suis surpris à chanter les louanges de Dieu pendant que je promenais mon chien ou ailleurs. Mais c'est un bon signe. Ça veut dire que tu es en train de devenir quelqu'un qui marche avec son Dieu et qui le loue, qui le vante. Devenons ensemble des adorateurs heureux de Dieu. Dieu est aussi, et c'est mon dernier point, capable de faire des miracles. Alors, je voulais parler un petit peu du choc de ces histoires-là pour les gens. En fait, on se dit pour les gens modernes, ça a toujours été surprenant, ces histoires-là. Ce sont des miracles quand même frappants dont parle le livre de l'Exode. Est-ce qu'ils sont vrais, ces miracles racontés? Oui, ils sont vrais. En tout cas, nous, on croit à ce qui est écrit dans le livre de l'Exode sur la base de l'autorité de ce livre qui, il est vrai, c'est un document historique, ça vient des annales d'un ancien peuple, le peuple d'Israël, écrit il y a très, très, très longtemps. Et c'est aussi parole de Dieu. Donc, nous ajoutons foi à ces textes. Les prophètes, les autres auteurs bibliques, Jésus, les apôtres, qui étaient inspirés de Dieu, qui ont fait partie du peuple d'Israël à d'autres époques, eux aussi ont affirmé, oui, ces événements ont vraiment eu lieu. Et pour moi, Jésus en particulier, Dieu, celui qui est descendu du ciel, Dieu le Fils fait homme, l'a confirmé par le fait qu'il y croyait, qu'il enseignait les événements de l'Exode, et aussi qu'il s'est présenté comme « Je suis le nouveau Moïse ». Je suis le nouvel Exode, le vrai Exode, celui qui nous amène vers la vraie terre promise. Nous en reparlerons. Mais quand même, quand on lit les revues et quand on écoute les historiens, il y a quand même la réalité que ceux qui fouillent dans les annales d'Égypte, parce qu'il y a beaucoup d'archéologie depuis 100 ans qui se fait en Égypte, on n'a pas encore découvert beaucoup d'indices qu'il y a eu un gros peuple d'Hébreux qui était en esclavage en Égypte et qui sont partis. Il y a quelques indices, mais c'est quand même très peu à comparer aux données qui sont dans la Bible. Bon, comme ça fait 4000 ans que tout ça s'est passé, c'est un peu normal aussi que on n'a pas encore découvert tout ce qu'on pourra découvrir et beaucoup de choses se perdent dans le sable et aussi dans les régions plus humides où les archives disparaissent. Je pense aussi qu'il y a eu, je sais qu'il y a eu beaucoup d'explorations également dans le désert du Sinaï et on attend toujours des nouvelles. Est-ce qu'on a découvert des indices archéologiques comme quoi il y a eu ce gros peuple qui est passé? Pour le moment, on attend. Mais est-ce que ces événements sont arrivés sur la base du livre de l'Exode et sur la base de ce que l'Évangile nous enseigne? Nous y croyons et nous célébrons ce Dieu. Et chaque fois que Dieu fait des miracles dans nos vies, nous savons que c'est ce Dieu qui a fait les miracles dans le passé, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et l'a sorti du tombeau. C'est ce même Dieu qui agit dans nos cœurs aujourd'hui et dans nos vies et dans nos santé. Donc, on va conclure. Je voudrais simplement vous dire bienvenue dans ce voyage à travers le livre de l'Exode. Écoutons bien. Hein? Le règlement, c'est que vous ne pouvez pas manquer un seul dimanche cet automne. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais vous savez que tous les dimanches, on met les que vous devez manquer sur le site web, en audio. Donc, vous pouvez rattraper lorsque vous devez manquer. La semaine prochaine, Mélodie va nous amener un enseignement. Je pense que ça sera sur le premier chapitre. Oui, exactement. Qui est un chapitre vraiment intéressant. Mais surtout, gardons à l'esprit, une des choses qu'on veut faire, c'est redécouvrir ce Dieu que nous connaissons en Jésus-Christ et comment il a agi avec ce peuple dans lequel Jésus est né, le peuple hébreu, le peuple d'Israël. Alors que nous allons prier maintenant et passer à la partie 2 ou la partie finale de la louange, essayons d'imiter nos ancêtres hébreux dans leur joie à adorer. Ils nous enseignent ici dans leur joie. Hélas, ça ne va pas durer. Donc, des fois, c'est mieux d'être... peut-être quelqu'un va être plus réservé dans sa louange, peut-être parce que tu passes par une période sèche dans ta vie chrétienne. Tu viens quand même pour adorer, pour louer, et tu le fais par obéissance, c'est correct. Peut-être ça vaut mieux que ce qui est arrivé avec Myriam et la gang qui ont adoré, mais quand les difficultés sont venues, eh bien, ils ont abandonné leur fidélité à Dieu. Et Dieu a dû vraiment revenir, leur réapprendre. C'est ce qu'on va voir plus tard. Mais essayons de les imiter dans leur enthousiasme maintenant. Cherchons à les surpasser dans notre fidélité. Prions. Merci, Père, pour le livre de l'Exode. Merci pour ta parole. Et merci que tu nous donnes cet héritage, cette parole. Et nous voulons étudier qui tu es. Et je veux être confronté par toi. Peut-être qu'il y a une idole dans ma vie qui me parle depuis un certain temps. Et puis, je me laisse aller à peut-être une fausse sécurité par rapport à cette chose. Et ça prend une place que toi, tu veux dans mon cœur. Peut-être que je me suis laissé aller au niveau de la louange. Je veux t'en donner plus, Seigneur. Et je suis ici, et puis le chant de tantôt me revient à l'esprit, mais j'ai comme l'impression de ne pas te connaître, d'avoir perdu contact avec qui tu es, avec ta puissance, et ce chant qui dit, Jésus, encore plus de toi, j'aimerais ça que tu viennes te montrer à moi dans ma misère. Je sais que je ne le mérite pas, mais moi, nous prions ensemble pour toi qui prie cela ce matin, à te connaître, à pouvoir dire, oui, Dieu est venu me visiter dans ma noirceur. On a prié tantôt pour mentionner qu'on allait prier pour les endeuillés, ceux qui sont très malades, ceux qui attendent une opération. Puis je mentionne aussi ceux qui ont vraiment besoin d'un travail. Et toi, le Dieu qui sauve, viens toucher nos bien-aimés à qui on pense maintenant. Viens les réconforter dans leur deuil, leur donner un tournant dans leur santé et de l'énergie pour leur vie. aide ceux qui ont besoin d'une date pour une opération à recevoir un appel. Ceux qui ont besoin d'un travail aussi. Aie pitié, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Merci pour ta grâce. Amen.